Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le premier dimanche de l'Avent. Sur le mont des Oliviers, comme Jésus est assis en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogent à l'écart.
Dis-nous quand ce sera et quel est le signe que tout cela doit s'achever.
Jésus commence à leur dire.
Prenez garde, restez éveillés. Vous ne savez pas quand ce sera le temps. C'est comme un homme parti en voyage qui a laissé sa maison et qui a donné à ses serviteurs l'autorité. À chacun sa tâche, au portier, il commande de veiller. Veillez donc, vous ne savez pas quand le seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. De peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, à tous je le dis, veillez. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Avec ce premier dimanche de l'Avent commence une nouvelle année liturgique que les spécialistes appellent l'année B. Et nous lirons principalement le récit de Marc. Le récit de Matthieu est lu pendant l'année A, celui de Luc pendant l'année C.
Et le mot avant, eh bien, ne s'écrit pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T, et il signifie non pas avant, c'est-à-dire ce qui précède, mais avènement, c'est-à-dire la venue de Jésus dans l'histoire. Elle s'est faite, il y a un peu plus de 2000 ans, puisque nous savons que le calendrier, quand il a été institué, s'est trompé de quelques années pour la naissance de Jésus. Ce temps liturgique de l'avant, de l'avènement, sera donc le temps de notre préparation à la fête de Noël, où nous célébrons cette première venue du Christ Jésus. Mais l'Église va aussi nous faire attendre la seconde venue du Seigneur. Et nous allons voir ce que ce passage d'aujourd'hui a à nous dire sur cette seconde venue du Seigneur. Il prend place dans le récit évangélique, dans ce qu'on appelle le discours apocalyptique. Le mot apocalypse qui veut dire « révéler ce qui est caché ». Les évangélistes ont regroupé dans ce qu'on appelle le discours apocalyptique les enseignements de Jésus qui concernent à la fois la ruine du temple de Jérusalem, la venue du Fils de l'homme et aussi comment Jésus percevait le dernier jour de l'humanité. Eh bien, ces récits, ils se trouvent dans les récits évangéliques placés en prologue de la Passion-Résurrection. Et on peut penser donc qu'ils ont quelque chose à nous dire sur le sens profond de la mort-résurrection de Jésus.
La littérature juive du temps de Jésus parle abondamment des ténèbres qui règnent dans le monde.
Oui, les forces du mal sont effectivement très puissantes dans ce petit pays qu'est Israël au temps de Jésus. Concrètement d'ailleurs, les forces du mal ont le visage de la Rome païenne. Le puissant empire romain brime en effet le peuple de Dieu depuis près de 100 ans. Et dans la symbolique de la Bible, eh bien, le monde est comparé au temps de la nuit, au temps des ténèbres. Et la venue du jour de Dieu sera comme le matin. La nuit que connaît Israël à l'époque de Jésus, ce sont des conditions en effet très pénibles. Des taxes, des impôts très lourds, le chômage, les vexations et les brimades par cette armée d'occupation qui fait peser un joug sur Israël. Et pourtant, eh bien, la littérature juive de cette époque est aussi pleine de l'espérance qu'un jour, le temps des ténèbres prendra fin. C'est d'ailleurs comme cela que le Talmud interprète un texte d'Isaïe au chapitre 21.
Veilleur, où en est la nuit ? Veilleur, où en est la nuit ? Le veilleur répond, Le matin vient. Venez, convertissez-vous.
Et ce sera dans les textes du prophète Daniel, qui datent à peu près de 150 ans avant Jésus, que l'on va puiser pour décrire cette espérance. On lisait en effet les textes de Daniel comme décrivant la venue du Messie. Pour Daniel, la venue du Messie sera précédée d'événements graves, événements qui seront l'œuvre d'un persécuteur impie. Et ces événements sont essentiellement le meurtre d'un personnage consacré, la profanation du temple de Jérusalem et la fin du culte.
Et après 62 septennaires, un Messie sera retranché. Quant à la ville et au sanctuaire, le peuple d'un chef à venir les détruira. Mais sa fin viendra dans un déferlement. Des forces viendront profaner le sanctuaire citadelle. Ils aboliront le sacrifice perpétuel et y mettront l'abomination de la désolation.
La ferveur populaire voyait dans ces faits décrits par Daniel comme des signes de la fin de ce monde de ténèbres, de ce monde actuel. Elle faisait un lien entre la fin de ce monde de violence et la venue glorieuse du Messie qui instaurait enfin le règne de Dieu sur Israël, un règne qui serait perpétuel. Le texte de Daniel donnait également un visage à ce Messie, et c'était la figure du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel et recevant de Dieu le pouvoir éternel sur le monde. Écoutons ce verset du 13 du chapitre 7 de Daniel.
« Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un Fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. » Et lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera jamais détruite. Notre parabole s'inscrit dans une réponse de Jésus aux disciples. Dis-nous quand ce sera et quel est le signe que tout cela doit s'achever.
Oui, Jésus est en train de parler avec ses disciples de la ruine du temple de Jérusalem. Et les disciples, qui sont bien sûr connaisseurs de ces textes de Daniel, font spontanément le lien entre la ruine du temple et la fin des temps. Eh bien, dans sa réponse, Jésus va montrer son souci de dissocier la venue du Messie et la fin de ce monde.
Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dans le temple, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. En ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans des nuées avec grande puissance et gloire. Quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive.
Voilà, alors, Jésus emprunte donc des images au livre du Daniel pour annoncer que la manifestation glorieuse du Messie, du Fils de l'homme, est proche et que cette manifestation sera précédée de l'abandon du temple, un temple qui aura été profané. Mais cette manifestation du Fils de l'homme ne sera pas encore le jour de la fin des temps, puisque ce jour, comme le rapporte le récit de Marc, est inconnu de tous, y compris même de Jésus. Au sujet de ce jour ou de cette heure, dit Jésus, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père.
Cette description éclaire-t-elle les événements de la Passion-Résurrection ?
Alors Jésus a déjà dénoncé la présence des marchands dans le temple comme une sorte de profanation.
Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits.
Dans le récit parallèle de Matthieu, Jésus déclarera les chefs religieux coupables parce qu'ils ont versé le sang des justes jusque dans le temple. Et il prédit donc que le temple sera déserté et même détruit.
Votre maison, elle va vous être laissée déserte. Amen. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit.
Cette prédiction sur le temple a sans doute été très importante pour les rédacteurs des évangiles. En effet, ce sera une des principales accusations lors du procès de Jésus.
Nous l'avons entendu dire, « Moi, je détruirai ce sanctuaire fait de mains humaines. Et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de mains humaines. »
Oui, mais le temple de pierre n'est évoqué ici qu'en symbole, un symbole d'un autre temple. Le récit évangélique de Jean va préciser qu'en disant cela, Jésus parle du temple qu'est son corps. C'est donc sa propre mort que Jésus associe à la ruine et à l'abandon du temple. Et comment cela ? Eh bien, en profanant la présence divine dans la personne du Messie qu'ils vont crucifier, les grands prêtres profanent le temple qui ne sera plus désormais le lieu sacré de la présence de Dieu. Et c'est sans doute le sens de la déchirure du voile du temple au moment où Jésus rend le dernier soupir.
Poussant un grand cri, Jésus expire. Le voile du sanctuaire se déchire en deux, du haut en bas.
C'est le Fils de l'homme ressuscité qui, désormais, va manifester la présence divine dans le monde. Ce sera d'ailleurs la principale réponse de Jésus au grand prêtre lors du procès.
Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel.
L'expression « les nuées du ciel » sont le symbole qui exprime le caractère divin du Fils de l'homme. À travers toutes ces images du temple profané et du Fils de l'homme divinisé, Jésus décrit donc le sens qu'il donne à sa mort et donc sa foi en sa propre résurrection. Il est convaincu que sa mort, parce qu'elle est vécue dans l'amour le plus pur, le fera entrer pleinement dans la gloire divine, dans la plénitude de l'amour du Père. Et c'est aussi ce que révèle l'homme qui accompagnera les disciples sur la route d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Messie souffre cela pour entrer dans sa gloire? Par cette mort d'amour, Jésus deviendra source d'amour pour tous ceux qui seront en communion avec lui. C'est le sens de sa réponse aux Grecs qui sont venus l'interroger peu avant son arrestation.
Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains.
Élevé sur la croix, Jésus va être élevé dans la gloire divine. Il pourra dès lors, et cela tout au long des siècles, venir auprès des siens en ressuscité pour leur communiquer la force de son amour et de sa joie. C'est ce qu'il explique aux disciples lors du dernier repas.
Vous cherchez entre vous le sens de ma parole. Encore un peu et vous ne mourrez plus sous les yeux. Et puis encore un peu et vous me verrez. Amen. Vous serez affligés. Mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira.
Départ donc de Jésus dans le temple qu'est son corps humain et qui va être détruit, mais venu de Jésus dans le temple que sera son corps ressuscité. Et c'est donc sur ce fond de décor que vient se greffer la parole, la parabole du retour de l'homme qui est parti en voyage.
Vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin.
Vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient. Eh bien, ce Seigneur de la maison qui vient, c'est Jésus qui ressuscite. Et il va ressusciter de nuit, c'est-à-dire pour vaincre ce monde des ténèbres. C'est de grand matin à l'aube, alors qu'il fait encore ténèbres, que les femmes vont faire la rencontre du Seigneur de la maison qui est de retour, le Fils de l'homme ressuscité. Cette venue du Fils de l'homme ressuscité est donc commencé depuis le troisième jour qui est une expression également symbolique dans la Bible et qui veut dire le dernier jour, le jour où l'humanité est enfin achevée, accomplie. L'attente de ce retour du Fils de l'homme, de cette venue du Seigneur de la maison, elle va être chaque fois mémorisé par les chrétiens dans la nuit de Pâques. Mémorisé, c'est-à-dire au sens fort du mot, ils vont la rendre actuelle pour eux. Et ils le feront également à chaque liturgie eucharistique. La liturgie de l'Eucharistie fera crier « Maranatha » qui signifie « Notre Seigneur vient ». Nous allons écouter quelques textes du premier siècle, des premiers siècles, qui vont illustrer cette attente qui se faisait souvent de nuit. En effet, à la tombée du jour, les fidèles s'assemblaient pour passer la nuit à prier. Au début de la vigile, on allumait des lampes. C'était la grande veillée. Elle durait jusqu'à l'aube et elle devait disposer les cœurs à attendre le Seigneur. Résurrection et attente du Seigneur se fondaient dans une même célébration. Nous allons écouter d'abord un texte de la tradition des apôtres, puis ensuite un texte de la didascalie.
Il faut prier vers minuit. Les anciens nous ont raconté ce que faisaient autrefois. Ils nous ont appris ceci. À minuit, le monde entier se repose un moment pour louer le Seigneur. À cette heure-là, les étoiles, les arbres, l'eau s'arrêtent un instant. Et tous les anges qui servent Dieu chantent ses louanges. C'est pourquoi les croyants doivent prier volontiers à cette heure-là. Le Seigneur Jésus nous assure que tout cela est vrai. Il dit « Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. » Et il continue en disant « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. »
Vous vous réunirez et vous ne dormirez pas. Vous veillerez toute la nuit, dans la prière et dans les larmes. Vous lirez les prophètes, les évangiles et les psaumes, jusqu'à la troisième heure de la nuit qui suit le samedi. Alors vous cesserez le jeûne, vous offrirez le sacrifice, vous mangerez et serez dans la joie et la jubilation, parce que le Christ, prémisse de notre résurrection, est ressuscité.
De peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, à tous je le dis, veillez.
Alors qu'est-ce que signifie cette insistance à veiller, à ne pas dormir ? Eh bien, c'est que Jésus continue à venir sans cesse au milieu des siens. Mais sa venue est le plus souvent secrète. Si pour l'apôtre Paul, cette venue se fera subitement sur la route de Damas, Jésus lui révélera qu'il aura déjà été bien souvent sur son chemin. « Je suis Jésus que tu persécutes dans mes disciples. » Dans la parabole du jugement dernier, Jésus affirme aussi sa présence dans la personne de ceux qui sont affamés, malades ou en prison.
« Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
On peut donc se laisser surprendre par la venue du ressuscité, comme on est surpris par un voleur, les voleurs qui viennent presque toujours de nuit. L'apôtre Paul donnera cet enseignement aux Thessaloniciens.
« Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Donc, ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. »
Paul rappelle que les disciples de Jésus sont déjà des fils de la lumière. Comme Jésus d'ailleurs l'avait dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière pour devenir des fils de lumière. » L'Évangile et l'Esprit du ressuscité sont, pour les chrétiens, des guides pour faire vivre dans la lumière de Dieu. Mais celui qui s'endort spirituellement ne verra pas le ressuscité, car il ne vit pas dans la lumière de Dieu. Dans la parabole du jugement dernier, ceux qui n'auront pas accueilli le pauvre, l'affamé, le malade, eh bien ce sont les endormis qui auront failli à leur tâche de serviteurs de leurs frères et sœurs. En effet, cet homme parti en voyage a donné le pouvoir à ses serviteurs. Il a fixé à chacun son travail. Eh bien, rappelons-nous la parabole des talents.
C'est comme un homme qui part en voyage, appelle ses serviteurs et leur remet sa fortune.
Jésus a confié à ses disciples sa fortune, c'est-à-dire le soin de l'Évangile pour le monde entier. Paul le rappelle aux Éphésiens.
Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfant de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité.
Oui, veiller, ça ne signifie donc pas seulement penser au dernier jour et méditer. Ce n'est pas une attente passive. Le disciple de Jésus est appelé à réaliser, c'est-à-dire à rendre réelle la présence divine en ce monde, et cela en faisant fructifier les dons qu'il a reçus de Dieu. C'est en agissant avec bonté, en accueillant les affamés et les malades, qu'on est éveillé à la présence de l'Esprit qui nous interpelle à travers ces affamés et ces malades. En effet, ce sont souvent ces humbles et ces marginaux qui nous précèdent dans l'amour de Dieu. Évoquons un petit fait raconté par sœur Stéphanie, petite sœur de Jésus.
Nathalie est une maman de 3 jeunes enfants qui vit de l'aide sociale. Elle se voit sa grande joie offrir un logement dans un HLM. Très vite, elle apprend que voilà quelques mois, il y a eu, dans ce logement, un drame familial d'une extrême violence. Inquiète, décontenancée, elle vient me demander de l'aide pour contacter le prêtre de la paroisse. Elle aimerait que l'on fasse une prière dans son futur logement. Des questions théoriques montent, superstition, exorcisme. C'est Nathalie qui, spontanément, nous dit « J'aimerais qu'on prie ensemble pour que, dans ce logement, où il y a eu tant de violence et tant de douleur, il y ait maintenant, par notre famille, beaucoup d'amour, pour qu'on grandisse en amour. »
Oui, dans la nuit de ce monde, nous pouvons être de petites lumières, chacun selon notre capacité, c'est-à-dire selon le talent reçu de Dieu. Donnons-en encore un autre exemple.
À l'atelier de menuiserie, à l'heure de la pause, un travailleur invite l'homme d'entretien, nouveau dans le département, à venir prendre le café à la même table qu'eux.
Voilà, une attention à un plus petit, à celui qui n'a pas de métier, eh bien c'est ce qui nous fait rejoindre secrètement l'esprit du ressuscité qui vit et qui agit dans le cœur des mal-aimés. Veiller à la venue du ressuscité, est-ce que ce n'est pas aussi lutter contre l'injustice? Une injustice qui malheureusement renaît sans cesse dans notre société. Dans le contexte actuel de la mondialisation des marchés, la priorité des gouvernements va de plus en plus vers ce qu'ils appellent la bonne santé des finances. Eh bien, c'est peut-être ici qu'au nom de l'Évangile peut intervenir le veilleur, pour interpeller les décideurs politiques afin qu'on fasse attention aux plus démunis et qu'ils forcent ainsi les autorités à ne pas oublier que tout être humain est une personne. Jean-Paul II le rappelle souvent, une société est jugée au regard qu'elle porte sur les blessés de la vie et à l'attitude qu'elle adopte à leur égard.
Voilà 2000 ans que dure le voyage du Seigneur Jésus. Ne risquons-nous pas de ne plus attendre la venue du Maître?
Être dans la lumière du Christ ne veut pas dire effectivement que nous sommes sortis de ce monde de violence, un monde des ténèbres et de la nuit. Même si nous avons été arrachés au pouvoir des ténèbres, si nous avons été transférés dans le règne du Fils de son amour, pour parler comme Paul, nous continuons à vivre dans le temps de la nuit. L'être humain demeure toujours fragile et complexe, et à tout moment, il court le risque de tomber, de céder aux puissances du mal. Ce mal peut prendre toutes sortes de formes, c'est la course à la richesse, la volonté de dominer, le refus de partager, l'accoutumance au mensonge. Écoutons la parabole du semeur qui nous le rappelle.
Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine, il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe.
Il n'y a donc rien d'acquis dans notre attachement au Christ. Même si l'Évangile fait de nous des ressuscités, dans la mesure où nous essayons de le vivre chaque jour, nous pouvons toujours nous laisser endormir par ce que ce monde représente. Et cela est vrai non seulement pour chaque chrétien, mais aussi malheureusement pour l'Église tout entière. Dans notre passé d'Église, il y a eu des temps d'aveuglement où nous n'avons pas accueilli la venue du ressuscité dans notre monde. Oh, il n'est pas nécessaire pour cela d'évoquer l'Inquisition ou les crimes des Borgia. La tentation est toujours grande pour l'Église de ne pas vivre l'absolue miséricorde de Jésus. Elle est grande, cette tentation, de préférer l'ordre imposé au pardon un peu fou, de figer la liturgie, au risque de la rendre sans vie et sans intérêt. Mais peut-être que la tentation la plus perverse, c'est de nous croire possesseurs de la vérité, au point de ne plus voir les semences de la parole divine dans la vie des autres croyants, comme dans la vie des incroyants. Oui, le péché de ne plus voir l'esprit qui œuvre dans tous les cœurs de bonne volonté. Le poète indien Tagore traduisait ainsi ce passage discret de Dieu dans le monde.
N'avez-vous pas entendu son pas silencieux ? Il approche, il approche, il approche. À tout instant, à tout âge, chaque jour et chaque nuit, il approche.
Avec tous les veilleurs, les priants, de toute confession, de toute condition, faisons donc monter vers le Seigneur notre humble appel pour qu'il vienne parmi nous et que nous sachions reconnaître sa présence. Et cela, même si les chemins de Dieu nous semblent bien souvent déconcertants.
Tu es venu, Seigneur, dans notre nuit, tourner vers l'aube nos chemins. Le tien pourtant reste caché. L'Esprit seul nous découvre ton passage.
Pour nous mener au jour, tu as pris corps dans l'ombre humaine où tu descends. Beaucoup voudraient voir et saisir. Sauront-ils reconnaître ta lumière ?
Nous leur disons, voyez le grain qui meurt. Aucun regard ne l'aperçoit. Mais notre cœur peut deviner dans le pain du partage sa présence.
Puis nous portons vers toi comme un appel l'espoir des hommes d'aujourd'hui. Mûris le temps, hâte le jour et que lève sur terre ton royaume.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi utiliser notre télécopieur, le numéro 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous aussi pour connaître les conditions d'abonnement aux feuillets ou aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.